France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine, cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de consommer en rond, en tout cas qui essaye, avec aujourd'hui Éric Mainviel et Gilles Gaillard à la technique, et assisté de Sophie Ledoré, de Céline Bézy, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Maïté Adam qui réalise cette émission. Avec, pour commencer, un résumé des derniers épisodes de notre série Urgence. Depuis des années, on le sait, la place de New York suit un régime trop riche. Or, les crédits pourris dans le monde de la finance, et comme le cholestérol dans les artères, ça ne pardonne pas. Alors, quand les banques américaines se mettent à tomber comme des mouches, c'est Wall Street tout entier qui manque de nous claquer dans les doigts. Intervention massive du SAMU financier, qui décide de pratiquer une injection massive de liquidités. Autrement dit, on explique gentiment à nos cousins d'Amérique qu'il leur suffit de mettre 700 milliards de dollars au pot. Eux qui ne se savaient pas si riches, bah forcément, ils acceptent de régler la note. Et voilà, le tour est joué. Au pays des Golden Boys, tout est possible. Alors vous me direz, ça se passe pas comme ça chez nous, quand le banquier nous appelle. Tenez, un exemple personnel. Allô, monsieur Chessou, oui. Je vous téléphone pour vous prévenir que votre compte à la Banque Planétaire est dans le rouge depuis le 23 septembre. La Banque Planétaire? Mais attendez, je n'ai jamais ouvert de compte chez vous. Eh bien, pourtant, j'ai sous les yeux toute une série de chèques sans provision à votre nom. Forêt, terre cultivable, eau potable, stock de thon rouge. Vous et vos cousins d'Amérique, monsieur Chessou, vous vivez largement au-dessus des moyens de la planète. Je vais être obligé de retirer votre carte de crédit. Alors, on le savait, nous autres habitants des pays riches, nous dépensons chaque année plus de ressources que la nature peut produire sans puiser dans les stocks et entamer son capital santé. Or, d'après les calculs de nos amis de Global Footprint Network en Californie, l'empreinte écologique de l'humanité moderne correspond à 1,4 fois ce que la Terre peut supporter, bien plus évidemment pour les pays occidentaux. À ce rythme-là, notre planète frisera bientôt l'anorexie. En 2008, par exemple, nous avons épuisé les ressources annuelles de la Terre. Alors je prends mon calendrier, Anne Chaon.
Mardi 23 septembre.
Et oui, depuis mardi dernier, vous et moi, nous vivons à crédit. Pourtant, les pistes pour joindre les deux bouts en période de vache maigre, on les connaît. Économiser l'eau, voyager à pied, en train, à vélo, consommer moins de viande, préserver la biodiversité, etc. etc. Bref, faire ce qu'il faut pour éviter la faillite de Dame Nature, une vénérable institution fondée il y a 3 milliards d'années, on va dire, et dont la santé est aujourd'hui menacée par les visées à court terme d'une espèce de grand bipède. Parce qu'au service des urgences de la planète bleue, voyez-vous, ce n'est pas comme à Wall Street, on n'accepte pas la monnaie de singe. Petite réaction, vous avez envie de réagir, Anne Chaon, tout
oui,
de suite de l'AFP.
Je voulais juste rajouter que cet overshoot day, ce jour du dépassement global l'année dernière, était tombé le 6 octobre. Et qu'en 96, quand le project a commencé, il tombait fin novembre et qu'à l'époque, on excédait la capacité de production de la Terre de seulement 15%. Et cette année, c'est 40% et c'est le 23 septembre.
Voilà. Alors, plus en forme qu'une action Lehman Brothers, moins déprimé qu'un orang-outan dans ce qu'il reste de sa forêt de Bornéo, plus transparent qu'un rapport sur les incidents nucléaires du Tricastin, nous avons donc notre trio de choc de journalistes qui sont là. Donc Anne Chaon de l'AFP, vous l'avez compris. Hervé Kempf avec nous, qui est aussi l'auteur d'un formidable livre qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». C'est-à-dire que l'homme, on le sait, aujourd'hui, bute sur les limites de la biosphère, des ressources terrestres et marines. Nous entrons quand même dans l'ère de la sixième extinction des espèces, même si on ne veut pas le voir, il y a quand même un petit peu de ça. Donc, comment orienter différemment notre énergie humaine et puis cette volonté de progrès? Et ben oui, mais vous avez évidemment une classe dirigeante qui fait obstacle à ce changement de cap qui s'impose. C'est vraiment toute la thématique Hervé Kempf de votre livre. Et puis Claude-Marie Vadreau n'est pas en reste parce qu'il a écrit récemment Pensée durable, économiser chez Hachette Pratique. Ben bonjour à vous, messieurs.
Bonjour.
Voilà, vous allez bien. Je crois que je vous fais
Denis Chessou.
Un petit retour, Claude-Marie Vadreau.
Allons bien.
Vous allez bien. Bon, mieux que la Terre, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Alors, on va se lancer donc les uns les autres avec nos différentes actualités. Tenez, moi, je vous propose d'écouter un homme que vous connaissez qui s'appelle Pierre Radane. Pierre Radane, donc ancien président de l'ADEME, qui est un expert en énergie, qui a suivi aussi le Grenelle. On clique d'abord sur la case Grenelle. Voilà quel est son point de vue, donc un an après.
La démarche était une démarche utile, nécessaire pour la société française. Il faut que cette démarche continue. Bien évidemment, chaque fois que nos sociétés se posent une question nouvelle, elles découvrent que sur certains points, il y a des conflits, que sur certains points, il y a des convergences. Et il ne faut pas céder à la tentation de vouloir que dès le premier débat, tout soit résolu dès la première tentative. Et même derrière, qu'on rentre dans une espèce de jeu qui aujourd'hui m'inquiète, que l'on délégitime la tentative parce que le débat est difficile. C'est comme si on se posait la question sur des sujets tout à fait majeurs, comme l'économique, oui, le social, l'institutionnel, qui sont des sujets que tout le monde reconnaît comme des sujets importants. Or, depuis deux siècles où on débat de ces sujets, tout le monde n'a pas convergé spontanément vers des consensus immédiats. Pourquoi sur l'environnement, il faudrait qu'on s'embrasse sur la bouche dès le premier débat?
Donc, ne pas confondre le processus qui a eu lieu et les résultats qui ne sont pas encore là.
Absolument. Alors, sur les résultats derrière, qu'est-ce que l'on voit comme point d'avancée, comme difficulté? Point d'avancée évidente, la société française comprend la question de l'effet de serre, comprend la crise énergétique, et entre les syndicats, les entreprises, les ONG, les collectivités locales et l'État, il y a une convergence qui est en train de se faire. Donc ça porte sur le bâtiment, ça porte sur les transports, ça porte sur la nécessité de prendre en charge la question du changement climatique. Mais il y a des sujets, par contre, qui s'avèrent beaucoup plus difficiles. La question derrière les OGM de la génétique, qu'est-ce que l'humanité va faire ou pas de sa maîtrise de cette science nouvelle de la génétique? Est-ce qu'on doit utiliser, est-ce qu'on ne doit pas utiliser? Bon, on a bien vu que le Grenelle, c'était beaucoup trop court pour régler cette question-là. Sujet qui a été mis à l'écart, le nucléaire, une partie de la question énergétique. La question de la gouvernance, on veut aller vers un développement durable, mais un développement durable, ça demande que l'on apprenne à articuler ce que l'on décide au niveau communal, ce qu'on décide au niveau du département, à de la région, au niveau de l'État. Or, tout ça aujourd'hui est désarticulé. Mmh. Et le projet de loi aujourd'hui n'articule pas cette question-là. La question de la fiscalité, question très difficile, abordée de façon beaucoup trop rapide, posée légitimement sur la question de l'énergie et sur la question du climat, mais à un moment où le niveau des prix du pétrole est tel qu'il y a une vraie souffrance dans notre pays sur les prix du pétrole, notamment les familles rurales qui doivent aller bosser et qui se retrouvent, compte tenu des distances à faire, avec le prix de leur mode de transport qui engloutit l'essentiel de leur salaire.
Donc on ne peut pas, on va dire, imposer, vouloir une taxe carbone lorsque l'on a un baril qui est à 50 ou 60 euros et un baril à 120 euros.
On n'est pas dans la même situation. Oui. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut se poser la question de compensation sociale. Donc ça demande une analyse plus fouillée et on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de cette analyse fouillée.
Voilà, ça nous donne évidemment du grain moudre pour ce premier sujet, donc à la fois Grenelle de l'environnement et puis aussi fiscalité. On sent bien que d'un côté, il ne faudrait pas que ce soit pris en tenaille entre des écolos quand même un peu raides et impatients, des lobbies et puis aussi une partie de la droite parlementaire qui veut aussi la peau de cette affaire, il ne faut pas se le cacher. Quelle est, Hervé Kempf, un peu votre sensibilité, votre analyse par rapport à cela?
Par rapport à Grenelle, Pierre Adam le dit, c'est comme, je pensais d'ailleurs qu'il parlait du protocole de Kyoto, parce que c'est toujours un petit peu le même genre de problématique, on se demande est-ce que c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors Pierre le disait bien, quand même on progresse, ça n'aurait pas été imaginable, et de l'autre côté on se dit, mais par rapport à la gravité des échéances, on va beaucoup trop lentement. Je ne sais pas, je crois que ces processus existent. Et il faut les utiliser. Moi, je vois dans le protocole de Kyoto, mais d'une certaine manière, à une autre échelle dans le Grenelle, le fait que quand même, on est autour d'une table commune, on discute du même sujet, et même s'il y a des oppositions très fortes d'intérêt, au moins les choses sont dites, sont pensées et sont réfléchies collectivement. La deuxième chose, c'est de voir, par exemple, je repensais à cette histoire de bonus-malus sur les automobiles. Il y a 4 ans, le ministre Serge Lepelletier avait proposé la même chose, il a été complètement blackboulé.
Il a sauté pour ça, voilà. Entre autres. Il a eu effectivement tout le lobby automobile, ça lui a même coûté sa place de sénateur du Cher.
3-4 ans après, on arrive à mettre cette mesure en place. Donc malgré tout, il y a des choses qui se font. Moi, je crois, en fait, j'allais dire plus simplement, c'est que la réalité s'impose et va s'imposer de plus en plus. Et de la même manière que, pour prendre une comparaison dans le domaine financier, beaucoup de gens voyaient les dérives du capitalisme et voyaient où, dans quel mur nous menait ce délire spéculatif financier et la crise arrive, de la même manière, de plus en plus fermement, la réalité de la crise écologique va s'imposer à nous. Et je crois quand même que les sociétés sont assez sages, en quelque sorte, dans leur sagesse collective pour prendre ça en compte.
Claude-Marie Vadrot, donc de Politis, je le rappelle.
Moi, les taxes vertes, elles me laissent un peu sceptique. Mais même si je sais bien que leur rejet par les parlementaires de la majorité n'est qu'une manifestation entre beaucoup d'autres de leur détestation des protecteurs de la nature et des écologistes. C'est même impressionnant, il suffit de lire le compte-rendu analytique de l'Assemblée nationale pour voir les énormités qu'ils peuvent proférer à tout bout de champ dans ce domaine. Mais moi, si les taxes vertes me laissent un peu dubitatif, c'est que ça signifie qu'en dépit des sondages dans lesquels nous nous proclamons majoritairement comme des citoyens attentifs à la planète, eh bien finalement, nous ne pouvons agir que si l'on nous offre quelques sous pour nous conduire écologiquement.
C'est-à-dire que le passage...
J'appelle pas ça une prise de conscience.
Mais est-ce que dans la nature humaine, ça c'est pas très enthousiasmant, mais quand même, est-ce que le passage à l'acte n'est pas synonyme de troc ? C'est-à-dire que c'est ça ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a sensibilisation. On se rend compte malheureusement que parfois, sensibilisation va amener à de la lucidité, va amener à de l'angoisse et parfois à de la non-action. Fort heureusement aussi, il y a des gens qui bougent. Voilà. Mais c'est pas spontané ce que vous dites. Il y a un décalage entre...
C'est pas spontané. Ouais. Écoutez, quelques 300 ou 400 euros de bonus pour acheter une voiture qui ne pollue pas, voiture dont le prix dépasse les 10 000 euros, c'est un bien faible pourboire, alors qu'on aurait pu décider avant d'acheter une voiture moins polluante et non pas non polluante. C'est ça qui me gêne, c'est que nous n'ayons pour l'instant, malgré nos grandes déclarations, malgré les sondages auxquels je faisais allusion tout à l'heure, eh bien, nous n'avons que l'incitation financière pour déterminer notre comportement écologique. Et en plus, je crains que ces taxes, si elles existent, eh bien, ne frappe que la partie la plus démunie de la population.
Anne Chabon, aussi sur ce thème.
Oui, deux choses. Je ne crois pas non plus à la... Je ne crois pas du tout à la vertu spontanée de l'être humain en termes d'écologie, en matière d'écologie. Je crois que le principal levier, c'est effectivement le porte-monnaie.
Juste une petite parenthèse, pardonnez-moi, et après je vous laisse continuer, Anne. C'est vrai qu'on a eu deux chocs pétroliers qui, globalement, ont servi à rien. C'est-à-dire qu'on a continué, effectivement, sur les mêmes logiques.
Alors, avec la flambée du baril en dollars, hein, pas en euros quand même, en dollars, les six premiers mois de l'année, on avait un espoir d'infléchissement un peu des comportements. On est plutôt là à rebours, c'est dommage, le pétrole s'est stabilisé, il revient finalement au stade où il était au mois de janvier. C'était, je pense, là un allié très objectif de Monsieur Borloo, cette flambée du pétrole. Là, évidemment, on a un risque immédiat quand on a des tensions économiques et financières de voir l'écologie passer à l'as. C'est ce qu'on a observé déjà par le passé à peu près partout. On voit bien là le repli des Allemands dans la négociation européenne, notamment à cause des constructeurs automobiles, que ce soit sur le CO2, que ce soit sur le paquet climat-énergie, l'Union européenne. On voit que la négociation va être extrêmement dure. Forcément, ces tensions à l'échelon national, on n'y échappe pas. Et quand on regarde la loi de finances telle qu'elle est paru hier. Alors juste un tout petit étonnement quand même de ma part. On a eu 3 semaines d'hystérie médiatique et politique autour de ce projet de loi de finances. On a vu une campagne assez perverse orchestrée contre cette taxe verte dont on imaginait qu'elles allaient s'empiler. Qu'est-ce que disait Accoyer, le député UMP ? Il disait le concours Lépine des taxes. Ça totalement perverti le message. Moi, j'ai entendu à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, un député dire « Si je comprends bien, pour sauver les petites fleurs, on va taxer les petites gens. » Ben non, monsieur le député, vous n'avez pas bien compris, justement, c'est quand même pas ça l'enjeu. Mais bon, on a une énorme hystérie autour de ce projet de loi. Il sort hier et je n'ai pas entendu une seule réaction de la part des partenaires du Grenelle de l'environnement, de la part des associations. Qu'en pensez-vous ? Qu'attendiez-vous ? Est-ce que le compte y est ? Que regrettez-vous ? J'ai été très étonnée toute la journée de voir que personne n'avait rien à dire sur les taxes et sur les dispositifs fiscaux qui concernait le Grenelle de l'environnement. J'ai entendu juste France Nature Environnement, la fédération, dire « bon, il y a des évolutions, c'est pas la révolution, mais il y a du mieux ». Et je trouve qu'après tant de débats, on aurait peut-être pu essayer de faire le bilan.
Oui. Alors, de nouveau Pierre Adam, alors là, cette fois-ci, sur cette partie bonus-malus.
Deux réalités derrière. Un, les orientations commerciales et de marketing, notamment par rapport aux voitures, poussent vers les grosses voitures qui, d'ailleurs, font plus de rémunération pour les constructeurs automobiles. Et puis, on a dans le XXe siècle une telle fascination pour la voiture que chacun vit comme un progrès de niveau de vie, quelque part, d'aller vers une voiture de plus en plus sophistiquée, au point où les voitures que l'on a deviennent complètement disproportionnées par rapport à l'usage réel que l'on en fait. Et on ne savait pas sortir de cette affaire-là. Et la manière de sortir de cette affaire-là, c'est de réintroduire à côté du constructeur automobile, à côté de son client, un troisième interlocuteur qui vient mettre la main sur l'épaule, qui dit l'intérêt de l'humanité, bah, c'est qu'on épargne le pétrole. L'intérêt de l'humanité, c'est qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Et l'État peut, de ce côté-là, donner une prime pour celui qui est vertueux sur ces sujets-là, et puis une prune, une taxation sur celui qui est du mauvais côté. Et le sujet est intéressant et est intelligent parce que ça ne complique pas le mode de fonctionnement de l'État, notamment la fiscalité sur les prélèvements obligatoires. Il suffit de régler le système pour que les avantages sont compensés par les primes que l'on prélève.
La pyramide, on a dit stop quand même. Hein, ça a été.
Non, mais le problème que l'on a eu, c'est que le système a été mis en place en décembre 2007. Il a eu un énorme succès. Tous les constructeurs automobiles ont fait des pubs en disant « Achetez ma petite auto, elle est tellement bonne qu'elle a la prime écologique ». Donc tous les constructeurs ont réorienté leur gamme plutôt vers des petits véhicules qui correspondent à l'usage la plupart du temps que l'on en fait. Et le problème, c'est que le système a été happé par son succès. Que du côté du budget de l'État, ben, il a plus à distribuer de primes qu'il n'a touché de taxes. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas du tout dire que le système est mauvais, parce que justement ça montre qu'il a bien marché. Ça veut simplement dire que chaque année en loi de finances, bah, l'État il doit régler. Il faut viser avec un système de ce type des choses sur les, qui valent vraiment le coup. Une famille qui a une voiture, sa voiture c'est une tonne de pétrole par an et c'est 4 tonnes de CO2, de gaz carbonique. Donc on est sur un enjeu fort et c'est utile de réorienter les ventes dans la direction qui est celle de l'intérêt collectif. Et je dirais, il y a un débat sur le bonus-malus, sur son réglage. Entendez bien qu'il n'y a pas un vrai débat sur sa légitimité. Sa légitimité est réellement perçue. Donc c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'il faut que dans nos actes d'achat, on tienne pas seulement compte du prix qui est le prix de vente, mais qu'on anticipe les effets que l'utilisation de ce produit va avoir pendant l'ensemble de sa durée. Et c'est vrai que quand on achète une voiture, en gros, on se marie avec ce bien entre 10 et 15 ans. Et donc, on n'a pas intérêt à se planter au moment de l'achat.
Hervé Kempf, donc du Monde. Vous en prie.
Oui, il y a une chose qu'il faut rappeler d'abord, c'est quand même pas seulement une taxe, puisque c'est un bonus-malus. Donc ça veut dire que justement, c'est neutre fiscalement et que l'idée générale derrière cette démarche, c'est de modifier le système de prix pour que, par le fonctionnement du marché, de l'offre et la demande, on aille vers telle ou telle chose ayant un impact sur l'environnement moindre. Donc, ce n'est pas une taxe, c'est au contraire quelque chose qui doit être neutre fiscalement, qui consiste globalement à plus taxer les activités polluantes et à moins taxer les activités non polluantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi toute cette idée n'a pas pu être transmise par ceux qui promouvaient le bonus-malus. Il faut se rappeler aussi que ça venait à peu près une semaine avant le débat qu'il y avait eu sur le RSA, c'est-à-dire sur le revenu de solidarité active, où finalement on a dit aux gens, on va pour financer cette activité qui semble être très positive pour les gens pauvres, etc., on va faire un prélèvement sur les classes moyennes. Mmh. Mais les super riches, ceux qui bénéficient déjà du bouclier fiscal, ils n'auront pas à payer leur contribution sur le RSA. Alors évidemment, il y a énormément de gens qui se sont dit on fait un effort pour le RSA, c'est les classes moyennes qui vont le porter, les gens qui ont une assurance vie, ce genre de choses, mais les plus riches, ceux qui sont déjà beaucoup d'avantages, y échappent. Et une semaine après, on a cette problématique du bonus-malus qui est arrivée. Ce que je veux dire par là, c'est que, une fois de plus, les deux choses sont connectées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de modification une politique écologique si on oublie par ailleurs la question sociale qui est absolument essentielle.
D'ailleurs, effectivement, dans Comment les riches détruisent la planète, c'est aussi au cœur de votre ouvrage, c'est qu'on ne peut pas comprendre ces histoires-là. Il faut comprendre qu'il y a la concomitance des crises écologiques, sociales, financières, il faut les analyser, sinon, mais parce que pour que l'on comprenne bien, effectivement, comment tout ceci s'emboîte. On ne peut pas dégager l'écologie du social aujourd'hui, le dégager non plus, effectivement, de l'économie. Alors, quelque chose qui peut avoir un impact positif sur nos oreilles, grâce à Emmanuel Chupin, c'est notre premier disque, C'est où George. À tout de suite.
Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, faz o ar na pista, final de semana. Na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé.
La classe politique est très peu biodégradable dans l'environnement. Il faut les aider, secouons-les. Ils ont bien une adresse, tous ces gens pour qui on vote. C'est au-delà de mon amour, avec Denis Chessou.
Et suite donc de cette ronde des journalistes, Claude-Marie Vadrault, vous souhaitiez rebondir avec humour, effectivement, puisque Pierre Adam disait on est marié avec la voiture. Il parlait de la civilisation, il ne parlait pas forcément de lui, mais enfin, d'une façon générale.
Oui, moi, je considère qu'on peut divorcer avec sa voiture. Et puis, on peut peut-être simplement se paxer avec une voiture. C'est comme ça, la séparation, elle est beaucoup moins douloureuse. On peut perdre des mauvaises habitudes progressivement. Parce que si je suis sceptique envers les taxes vertes, ça ne veut pas dire que je ne considère pas que nous devons, chacun d'entre nous, comme vous le conseillez depuis des années dans cette émission, modifier nos comportements. Mais les modifier au quotidien. Et ce n'est pas facile. C'est douloureux, il faut faire des choix. On ne devient pas écolo comme ça du jour au lendemain. Il faut peu à peu considérer les conséquences de nos actes, les mesurer. Et puis on progresse. Moi, j'estime que je ne suis pas encore au bout du chemin, malgré 30 années de militantisme. Il faut toujours progresser sans pour cela changer son cadre de vie, sans remettre en cause son mode de vie. Il faut changer.
On sait justement que Claude Marie, et vous l'expliquez très bien dans cet ouvrage, hein, économiser, donc chez Hachette Pratique, on sait très bien aujourd'hui qu'on est assis les uns les autres, on va dire, sans vraiment changer notre petit bonheur intérieur, on le dit, on le répète, entre 20-25% d'économie de fluide absolument en tout genre. Et ce que vous disiez sur la voiture et ce changement de civilisation qui, entre autres, va incorporer cette donnée fondamentale, c'était qu'on va passer de l'appropriation de l'objet pour la voiture, par exemple, à l'usage de la voiture. Et c'est ça aussi qui bouleverse la donne économique. C'est bien pour ça qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui se disent « Encore une minute, s'il vous plaît, monsieur le bourreau. » Vous voyez, c'est un peu ça. Mais ça va être une autre façon d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'approprier une voiture, mais effectivement, on va l'utiliser. Alors, ça va être soit du covoiturage, soit de la location, longue durée, moyenne durée, etc. Tout est en train de se mettre en place. Ça, c'est plutôt assez enthousiasmant. Je ne sais pas les uns les autres ce qui se passe.
Il y a un autre truc qui est extraordinairement positif, mais on y pense presque plus, parce que c'est passé dans le quotidien au moins des habitants des grandes villes, c'est le Vélib. Enfin, à Paris, on l'appelle Vélib, à Lyon ou à Toulouse, Vélove, il porte un autre nom, oui. Mais c'est quand même formidable. Et c'est passé presque dans la coutume quotidienne de manière, en 2 ans, ça y est.
C'est vrai que c'est passé sans...
Et ça marche vachement bien. Oui. Et donc, on sent qu'effectivement, cette idée d'utiliser un service, le service de l'objet, plutôt que de s'approprier l'objet matériel, parce qu'il ne s'agit pas, on ne va pas vivre non plus sans voiture, on va essayer de vivre avec moins de voitures. Alors peut-être qu'on va essayer d'abord de faire des villes qui seront plus justes, où les plus pauvres ne seront pas obligés d'être à 50 km du centre-ville, et donc il y aura des transports en commun, il sera possible d'utiliser, pour prendre cet exemple, moins de voitures, mais malgré tout, on aura encore besoin de voitures. Donc comment est-ce qu'on... On utilise intelligemment et écologiquement quand même les bonnes choses de la société technologique.
Alors dans les bonnes nouvelles aussi quand même, Hervé Kem, puisque vous êtes au Monde, là depuis donc cette semaine, les pages Planète, quand même 2 pages quotidiennes maintenant, ce qui était un truc complètement inenvisageable il y a encore évidemment quelques années. C'est-à-dire deux pages quotidiennes dans le Monde sur ces phénomènes.
Et ben voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est incroyable, mais effectivement c'est le cas. C'est absolument hallucinant. Quand on discutait entre journalistes, il y a quelques années quand même, les quotidiens, les grands médias, ils font passer d'environnement. Et paf, non seulement, et dans un canard comme Le Monde, qui reste quand même un journal important, et en plus ces 2 pages Planète, donc, qui ont l'ambition de raconter l'environnement au sens large, les ressources naturelles, les migrations, tout ce qui concerne le macro, le planétaire, se trouvent avant les pages internationales. Mmh. Vous savez que l'international était à juste titre une marque de fabrique, une compétence du monde.
C'était une ouverture, bien sûr.
Voilà. Et là, il y a eu cette magie collective au sein du journal qui fait que Planète, donc la question d'environnement au sens large, vient avant l'international.
Qui a été touché par la grâce ?
Écoute, je ne sais pas comment ça... Oui, c'est une bonne question. Je crois que ça s'est fait de discussions, etc. Il y a aussi l'évidence de l'abondance d'informations écologiques et d'informations intéressantes qui viennent. Il y a aussi que dans l'esprit tortueux et parfois un peu dinosaurien des hiérarchies, on se rend compte que l'écologie, ça intéresse les lecteurs et que peut-être, si on veut avoir plus de lecteurs, on pourrait parler d'écologie. L'intelligence des gens, enfin bref, tout ça, c'est fait. Et puis, ce choix qui est assez courageux, et j'espère qu'on va le gagner, le confirmer, a été fait.
Et non, mais une fois de plus, ça veut dire qu'on commence à se rendre compte que l'environnement, l'écologie, c'est pas au fond à gauche comme c'était avant dans la maison, mais c'est franchement le socle et la clé de voûte. C'est-à-dire que le socle, parce qu'on n'est pas une société hors sol, et que si on veut bâtir une maison saine avec effectivement de l'économie, du social, du sport, du culturel, que sais-je, il faut que les fondations tiennent. Et c'est ça. Et la clé de voûte, on va dire que c'est l'atmosphère pour faire simple. Donc là, ça commence à tilter. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, ce n'était pas possible. Anne Chaon.
Oui, je pense aussi que l'écologie commence, et l'environnement au sens large commence à s'installer sur le devant de la scène, parce que chacun se rend compte qu'il y a des implications économiques très, très rapides. Et depuis 2 ans, on parle essentiellement de climat au sommet du G8. Ce n'était quand même pas pour ça pas que le G8 a été créé. Et je vois dans cette innovation du monde, qui est particulièrement intéressante venant de la part d'un journal comme celui-là, moi j'y vois une vraie révolution culturelle, d'autant que j'ai vu que ces pages planètes, elles sont faites à la fois par le service d'Hervé, le service environnement, mais aussi par le service éco. Donc on a des gens qui étaient sur du lourd, donc c'est pareil à l'AFP, le lourd c'est l'éco et la guerre. Mais on commence à exister, on va au G8 maintenant, à l'environnement. Et je vois que le fait d'avoir marié ces services au sein du monde, c'est une véritable révolution culturelle et ça fait vraiment émerger la problématique environnementale.
Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'au prochain G8, il n'y aura plus George Bush. Et moi, je vous propose de retrouver Hélène Krievi-Jesner, qui est une femme, alors, qui appartient aussi, on va le dire, Claude-Marie Vadreau, parce que vous avez été notre ancien président. Saluons le réseau des JNE, des journalistes écrivains pour la nature et l'environnement, hein, qui regroupe quand même plusieurs centaines de gens qui croient vraiment à cela depuis pas mal de temps. Enfin, on n'est pas dans la croyance, d'ailleurs. C'est beaucoup plus fort.
Dans l'action.
Dans l'action, absolument. On ne pose pas la question de savoir s'il faut être optimiste ou pessimiste, c'est bon, allez, on y va. Et Hélène Krievi-Jesner, donc, est en Virginie du Sud. Et hier, donc, je lui ai posé la question qu'elle nous fasse un petit peu le bilan aujourd'hui de la campagne, donc, des deux candidats. Hélène Krievi, bonjour.
Bonjour, Denis.
Hélène, faisons un petit peu le point, s'il vous plaît, l'environnement dans la campagne américaine, puisque vous êtes aux États-Unis.
La campagne américaine se préoccupait pas mal d'environnement, ma foi, jusqu'au début de l'été, puisque on en a déjà parlé sur cette antenne avec vous. Les Américains ont quand même pas mal évolué sur la prise de conscience des changements climatiques. Alors au moins au niveau prise de conscience, à défaut de changements réels, mais enfin tout de même, il y avait des choses. Et puis c'était bien parti. Il y avait même des blogs écolos, des livres, des magazines, des associations qui se félicitaient que pour la première fois depuis des décennies, l'environnement était en train de jouer un rôle primordial dans une élection présidentielle. Le problème du réchauffement climatique, tout le monde avait l'air plus ou moins d'accord pour le prendre en compte. On l'avait vu pendant les primaires entre Obama et Hillary Clinton, il faisait assaut de millions d'emplois verts, etc. Et puis même McCain, à une époque, quand même McCain avait parmi les républicains, c'est quand même quelqu'un qui avait une prise de conscience affichée. Enfin, il n'hésitait pas.
Plus aigu que George Bush, qui est quand même au niveau de la merde, ce côté-là. Hein.
Voilà. Ouais. Et alors, tout d'un coup, notamment au mois de mai-juin, il y a eu une augmentation assez fulgurante du prix de l'essence. Mais quand on dit fulgurante, c'est énorme. Ça restait inférieur à ce qu'on paye en France, bien sûr. Mais pour les Américains, ça n'avait jamais été comme ça. Et je me suis dit, comme un peu tout le monde, bon, ils vont passer vraiment à la vitesse supérieure, ils vont économiser l'énergie, et puis ça va donner un coup d'accélérateur à ce changement de mode de vie. C'est raté, c'est complètement raté, et ça a eu une influence aussi sur la campagne. C'est qu'au lieu de voir les choses du point de vue environnemental, c'est devenu, les gens sont désormais littéralement obsédés, et les politiques avec, par le souci d'augmenter les ressources pétrolières des États-Unis.
Donc on est dans le toujours plus, ça voudra dire toujours mettre davantage de réchauffement et donc d'énergie dans le système, mais pas forcément de se remettre en question et de viser à des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique.
C'est-à-dire que oui, toujours économie d'énergie, bien sûr, mais on ne parle plus ou presque plus maintenant de changement climatique et de soucis. D'accord. Maintenant, c'est pragmatique, on parle d'indépendance énergétique. C'est absolument vital maintenant. Tout le monde dit il faut qu'on trouve notre propre pétrole. Alors, pour le coup, on est passé d'une problématique environnementale assez large à quelque chose d'exclusif, c'est-à-dire maintenant, il faut augmenter les ressources pétrolières américaines. Alors, vous avez peut-être entendu en France ce slogan « Drill, baby, drill, fort, chérie, fort ». C'était dans la campagne républicaine, la convention républicaine, les gens hurlaient ça devant Sarah Palin, devant McCain, pour leur dire « ouvrez l'Alaska ». Les réserves naturelles de l'Alaska.
Allez éventrer l'Alaska, oui.
Voilà, allez éventrer l'Alaska. Et puis surtout, surtout encore plus, parce que l'Alaska, c'est emblématique, mais c'est pas énorme, c'est l'autorisation ou non que le Congrès pourrait donner des forages offshore dans des zones qui étaient jusque-là interdites, et puis aussi sur les terres fédérales qui sont situées dans les États qui le désireraient, pour augmenter l'indépendance énergétique américaine.
En tout cas, la pétillante Mme Pauline est tout à fait d'accord, elle. Hein.
Ah oui, et en plus, elle a un truc. Elle dit « Dieu veut l'ouverture ».
Ah bah bien sûr.
Oui, alors si Dieu veut, n'est-ce pas ? Mais alors, donc, l'objectif, l'argumentaire jusqu'à présent, y compris des démocrates, hein, c'est un peu ridicule de détruire des fonds marins et de massacrer des terres protégées pour un pétrole qui partira sur le marché mondial, qui n'aura qu'un très faible impact positif sur les disponibilités américaines. Mais ça, maintenant, c'est un discours qui passe même plus. Plus personne l'entend, et même Obama et Joe Biden, son colistier pour la vice-présidence, maintenant, ils ont tellement été emportés par une vague d'opinion qui tout le monde dit qu'il faut y aller, même s'il y a peu de pétrole. Alors maintenant, même les démocrates disent, bon, alors on va peut-être envisager de lever leur moratoire si les républicains s'engagent à ne pas exporter notre pétrole sur le marché mondial, si ce pétrole-là est vendu moins cher aux Américains, si les compagnies pétrolières payent des royalties aux États. Enfin bref, voilà. Maintenant, c'est quasiment acquis. On va forer. On va forer quel que soit le nouveau président. Parce que il faut augmenter les réserves américaines. Les Américains ont très, très, très peur de manquer de pétrole.
Hélène, est-ce qu'il y a d'autres aspects environnementaux, écologiques quand même qui sortent un peu dans la campagne ou bien c'est enfoui sous le tapis, ça ?
Alors, dans la campagne, c'est devenu enfoui sous le tapis, mais les gens qui creusent un peu, ils veulent quand même savoir ce que les deux candidats ont derrière la tête. Donc, on a établi un bilan. Comme il dit aussi, on a regardé leur record et leur prise de position. Alors, il y a récemment un tableau formidable qui est paru dans la presse écologique, parce que les autres ne l'ont pas publié, sur que pensent les deux équipes des gaz à effet de serre, des énergies renouvelables, du charbon propre, du nucléaire, mais aussi de la régulation énergétique, des agrocarburants, la vie sauvage, la protection de la nature, bon, alors, et puis aussi de la nourriture, les OGM, etc.
Alors, de manière synthétique, qu'est-ce que ça donne ?
Oui. Bon, ça donne que globalement, les républicains sont pour des trucs ultra-light, hein, la vie sauvage, la protection de la nature, oh là là. À part l'Arizona, qui est l'état de John McCain, il ne veut pas trop qu'on y touche. Pour le reste, c'est, bon, bah, allez-y, hein, il faut que les compagnies forestières puissent exploiter le bois. Les républicains sont à fond pour développer les OGM, qui sont déjà ultra développés aux États-Unis, comme vous savez. Ils sont contre les aides de l'État pour la nourriture biologique, pour aider les producteurs locaux et bio. Bon, et puis évidemment, côté démocrate, c'est mieux, mais tout ça, c'est quand même relativement général au niveau fédéral. Après, il faut voir ce qui se passe dans les États, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même pas au niveau de Washington que tout se décide. Mais globalement, les démocrates sont plus écolo, entre guillemets, sachant que c'est pas tellement le parti lui-même qui décide, que plutôt les groupes de pression et les lobbies à l'intérieur. Mais le côté démocrate penche un peu plus pour quelque chose de à peu près soutenable, si on peut dire.
Non, on sent bien que c'est pas des révolutionnaires non plus de ce côté-là. Est-ce que vous sentez, vous, quand même, Hélène, je sais bien que parmi la cinquantaine d'États, donc vous pouvez pas être partout, mais qu'il y a quand même une différence, un décalage entre ce que souhaiterait la population ou bien les populations et puis quand même ce qui est présenté ?
Il faut se mettre à la place des Américains. Cette histoire de crise financière a tout occulté. Là, pour l'instant, on ne parle plus que de ça.
D'accord.
Alors maintenant, quand on va sur les marchés, il y a quand même quelques farmers market, comme ils disent. Les gens sont quand même assez préoccupés par le fait que la nourriture vient de plus en plus loin dans les supermarchés. Elle est donc de plus en plus chère. Et les gens réinvestissent un peu plus les marchés locaux en se disant là, il faut quand même faire des efforts pour aider les locaux parce qu'ils voient bien que le pétrole, c'est un souci qui, pour les agriculteurs, énorme. Donc, c'est très balancé. À la fois, il faut du pétrole pour aider des aides pour aider les fermiers et puis l'agriculture locale. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les gens qui ont un peu une prise de conscience tout de même. Oui. Mais il relie ça assez peu quand même avec la grande politique nationale.
Oui. Merci à vous, Hélène. À très bientôt.
Au revoir, Denis.
Voilà. Et puis moi, je vous ai inventé un nouvel État, hein, la Virginie du Sud. C'était joli pourtant. Non, elle vient de Caroline du Nord. Hein, ouais. C'est mais c'est pas mal. C'était, voilà, petite touche poétique comme ça en passant pour voir si vous suiviez. Hervé Kempf.
Oui, juste un mot. Dire que malgré tout, la crise financière va évidemment se traduire par ce que les économistes officiels vont appeler une crise économique. Ça va pousser les États-Unis en premier lieu à un changement radical de leur économie, de leur façon de vivre, etc. Après, il faut commencer que nous analysions, nous qui sommes très attentifs à l'écologie, comment la récession économique, ce que les économistes officiels vont appeler la récession économique, comment tous ces phénomènes économiques vont se traduire, quel impact il va y avoir sur l'environnement et sur la politique environnementale, et comment on va pouvoir proposer une réponse pour sortir de l'économie officielle, pour sortir des cadres habituels où ils vont évidemment nous dire il faut investir, il faut faire des autoroutes, il faut mettre du béton partout pour relancer la croissance. D'une certaine manière, on a, avec la crise économique qui se présente et qui était conduite en quelque sorte par le système destructeur écologique et financier à l'heure actuelle, une opportunité pour aller vers une autre voie. Donc il faut que tous ceux qui soient attentifs à l'environnement commencent à avoir ça en tête pour proposer des réponses. En tout cas, les États-Unis vont changer, ça c'est sûr.
Nous avons encore trois sujets, mal en péril, Kosovo et du solaire. Ce sera juste après Émilie Simon qui nous emmène où dans le désert ? CO2 mon amour ne s'intéresse pas qu'aux animaux. Si, nous sommes, ou nous-mêmes, effectivement, des mammifères. Alors, cher Anne Chaon de l'AFP, mal en péril, que se passe-t-il, s'il vous plaît?
Eh bien, l'homme est-il une espèce en voie de disparition ou tout au moins menacée d'extinction? La question est posée très sérieusement par un éminent biologiste danois. Il pose la question dans un documentaire qui s'appelle « Mâles en péril », messieurs. Un film qui a été sélectionné pour le Festival international du film écologique de Bourges, mi-octobre, mais qui sera surtout pour vous tous diffusé par Arte dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et c'est un film qui enquête sur la baisse spectaculaire du nombre de spermatozoïdes chez les hommes depuis 50 ans, une diminution de 50%.
Alors qu'est-ce qu'on a mangé comme saloperie ou bien qu'est-ce qu'on a inhalé?
La première alerte, elle a été tirée au début des années 90 par le professeur de l'hôpital universitaire de Copenhague, le docteur Skakeberg. Ses travaux ont été accueillis avec énormément de scepticisme et carrément par des campagnes de dénigrement, mais ils ont été, je m'empresse de le dire, confirmés par l'Académie des sciences américaines et depuis de très nombreuses unités de recherche, y compris en France, l'INSERM travaille sur la question. La piste recherchée, ce sont les quelques 85 000 substances chimiques qui nous environnent, aussi bien les pesticides que les phtalates. Vous savez, ce composant chimique qui rentre dans tous les plastiques. Je regarde la table autour de nous, je pense qu'il y en a absolument partout. C'est un assouplisseur du plastique. On en trouve dans les bouteilles, on en trouve dans les protège-cahiers, sur les tables. Mais plus grave, on en trouvait dans les biberons. Or, les phtalates et un certain nombre de molécules pesticides sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et ces chercheurs qui travaillent sur la baisse du nombre de spermatozoïdes ont mis en corrélation, parallèlement, l'explosion du nombre de cancers des testicules et la très forte augmentation de malformations génitales chez les petits garçons à la naissance. Alors, des études sont toujours en cours et vous savez comme la recherche procède très prudemment, pas à pas. Donc, ce ne sont que des hypothèses, mais qui ont tendance à se vérifier.
Puis on va pas dire non plus que l'épidémiologie soit vraiment une science complètement poussée dans le monde, en France et ailleurs.
Non, mais oui, surtout en France où on a quand même un historique lourd de scandales sanitaires et on est quand même le pays aux frontières duquel le nuage de Tchernobyl s'était arrêté.
Bien sûr.
Mais les choses bougent, mon cher Denis, les choses bougent. Les chercheurs se sont fédérés en réseau, ils se retrouvent tous les deux ans à Copenhague pour échanger leurs travaux. Donc la piste, ce sont bien ces phtalates et ces pesticides. Non pas qu'elles ne soient pas ces molécules testées, mais elles ne sont pas forcément, disent les chercheurs, testées dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que 0 plus 0 plus 0 peut égaler 3 ou 7. Chaque substance prise séparément peut être absolument sans danger et en composé avoir des effets désastreux.
Le cocktail
peut être détonant. Des mesures ont été prises grâce à l'Europe. En France, il y a 6 phtalates qui sont interdites dans les jouets pour enfants et les accessoires de puriculture depuis 2006. Imaginez le nombre de bébés avant 2006 que les mamans ont nourri avec des biberons dans lesquels rentrer sans
Alors,
doute des
Ne palates. Flippez pas non plus totalement. Hein, ne n'ouvrez pas le gaz, ne vous jetez pas par la fenêtre parce qu'il ne faut pas exagérer non plus.
Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir que finalement nous sommes tous soumis à une vaste expérimentation.
Nous sommes dans une éprouvette. C'est ce qu'un peu ce que Dubé Reeves aussi.
Les chercheurs, semble-t-il, finissent par avoir le dernier mot et j'ajoute que Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d'État chargée de l'écologie, organise un colloque européen sur ce thème dans le courant du mois de novembre. Donc, les chercheurs, puis les gouvernements se saisissent de cette question. Comme quoi l'environnement, monsieur le député, ce n'est pas qu'une histoire de petites fleurs.
Voilà, absolument. Mais oui, c'est, vous bouclez la boucle et c'est très très bien. Mais c'est vrai que NKM, comme on dit, Nathalie Kosciusko-Morizet, donc connaît bien, elle, ces sujets-là. Alors, un autre sujet joyeux. Nous allons faire un petit tour à l'étranger. Nous allons partir avec vous, Claude-Marie Vadrault, au Kosovo. Parce que vous en venez. Alors, faut dire aussi qu'à vous êtes grand reporter international depuis des années. Donc le local, le global, le mondial, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous tout sur le Kosovo.
Alors j'ai deux images à vous offrir du Kosovo. Une terrible et une ravissante. Oui. On commence par laquelle?
Bon, on commence par la terrible, mais on sera mieux après.
Eh bien, le Kosovo, c'est un petit territoire, paraît-il, indépendant de 10 000 km² avec 2 millions d'habitants.
Donc deux départements français maximum, on va dire.
En gros, oui. Et à peu près le lieu le plus pollué d'Europe actuellement.
Cool.
Une centrale thermique qui empoisonne les habitants de Pristina, la capitale. Le plastique qui traîne partout dans les rivières. Les ordures qui ne sont jamais ramassées. Des rivières, je l'ai vérifié moi-même, dont la température à la fin de l'été monte quand même à 45 ou 46 degrés en raison des rejets chimiques.
C'est beaucoup pour une rivière. Hein.
La pollution des terres. Et comme il n'y a pas vraiment un État dans ce pays, pour moi c'est un pays qui n'existe pas, un certain nombre de sociétés européennes commencent à y exporter des déchets toxiques. Et actuellement, il y a quelques courageux militants à Mitrovica, c'est-à-dire près de la zone serbe, qui essaient de dénoncer ce trafic de déchets.
Oui, et alors la bonne nouvelle quand même
ça... Alors la bonne nouvelle, oui. C'est il y a quelques années, alors que je suivais les pérégrinations des rebelles kosovars, j'ai franchi clandestinement la frontière avec deux d'entre eux, entre la Macédoine et le Kosovo. Nous étions avec deux ânes qui ne transportaient pas des pommes de terre, mais bien d'autres choses. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Un couple de loups au printemps, devant moi.
Ouais.
Ils sont restés 20-30 secondes. Les ânes tremblaient, bien qu'ils étaient rassurés par les deux Albanais. Et c'est extraordinaire, parce que le Kosovo, c'est un pays où il y a encore des loups. Je les ai vus. Et j'en ai revu il y a moins longtemps. Il y a encore des ours, des lynx et une vie sauvage qui se réfugie dans les montagnes du côté de l'Albanie. Et j'ai peur que cette pollution que j'évoquais, cette coupe sauvage même des forêts, ne fasse disparaître une faune qui reste absolument extraordinaire. Le Kosovo est encore, malgré tout, un pays sauvage.
Oui, non, mais quand on dit terre de contraste, c'est vraiment ça. C'est qu'on a la pollution d'un côté, puis donc de l'autre, vraiment scindé. Un milieu, obligatoirement, qui est plutôt en forme, parce que ces animaux-là ont besoin d'un milieu qui est sain.
Donc, absolument, ouais, oui.
C'est
oui.
Ça. Hervé Kempf, on va s'intéresser maintenant au solaire, parce que justement, dans Planète, donc ces pages Planète, une information tout à fait intéressante, qui est d'ailleurs tout à fait récente, « Eau et serre dans le désert ».
Oui, c'est une belle idée. On pourrait dire que c'est un projet fou, mais il n'est pas fou, je vais vous dire pourquoi. Mais l'idée, c'est d'associer effectivement dans le désert des centrales solaires à concentration qui fourniraient l'énergie à un système assez innovant de serres permettant donc de pomper de l'eau de mer ou de l'eau salée, mmh. de la désaliniser et d'humidifier l'air dans ces serres pour pouvoir y faire des cultures. Et donc, alors pourquoi c'est à la fois un projet fou, parce que faire pousser des tomates au milieu du Sahara est quand même un petit peu étrange, et en même temps c'est tout à fait réaliste, c'est-à-dire que ce sont des ingénieurs anglais qui ont associé deux technologies qui existantes. Les centrales solaires à concentration, on commence à en voir, même si elles sont encore très coûteuses, notamment aux États-Unis, et puis le système de serre qu'ils ont mis au point, dans le détail technique duquel je ne vais pas rentrer maintenant, parce que je pense que ça nous mènerait à peu près ce soir, mais est déjà expérimenté dans plusieurs endroits, en Tenerife, à Dubaï, à Oman, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'exemple privilégié que donnent ces chercheurs anglais, ces architectes anglais pour cette application, c'est le sud de l'Espagne. Et vous savez que le sud de l'Espagne a maintenant des milliers d'hectares de serres, j'allais dire normales, qui pompent l'eau et qui assèchent complètement les nappes phréatiques en sous-sol. Donc là, on a un vrai désastre écologique dans cette région du sud de l'Espagne. Et ces architectes anglais disent, là, on a un système qui pourrait... transformer finalement ce lieu complètement destructeur de l'environnement en quelque chose qui pourrait être en accord, en harmonie avec les ressources locales.
On commence à comprendre maintenant que l'économie verte promet quand même des millions d'emplois. Les choses ne sont pas encore faites, mais quand même, là on le voit bien, donc les uns les autres, il y a quand même un sacré gisement. C'est pas du flan, ça. Je veux dire que c'est cette autre économie donc que l'on souhaite, c'est ce changement de cap est en train quand même de prendre forme.
Oui, tout à fait. Et par exemple, sur le bâtiment. Et là, d'une certaine manière, on peut reboucler avec la
avec
crise économique.
Aussi. Oui, pardon.
Ou avec le Grenelle, puisque oui. Ça va être une des dimensions du Grenelle. C'est de dire, si on isole les bâtiments, on va économiser de l'énergie. Mais on va aussi créer beaucoup d'emplois. Mm-hmm. Et ça sera de l'emploi, j'allais dire positif, parce qu'on ne va pas construire. Il y a un délire en ce moment de construire et de faire un étalement urbain et une société tout à fait, pas formidable, mais là, on peut dire, mais on va reprendre l'habitat existant, on va faire de la rénovation thermique, de l'isolation. Et là, on a un exemple. Et, alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais pour la France, on peut parler de centaines de milliers d'emplois.
On a dit autour de 300-400 000 emplois, absolument.
Voilà.
Et aux États-Unis, dans la campagne, parce qu'ils ne sont pas non plus entièrement autistes, mais l'économie verte a été évoquée plusieurs fois, et par McCain, et par les équipes d'Obama, et ça se chiffre toujours en centaines de milliers d'emplois. Mais pour la France, on parle de 300 à 400 000.
Claude-Marie Vadrault.
Je vais revenir, grâce à Hervé Kelf, au geste quotidien.
Oui.
Il a évoqué l'Andalousie. L'Andalousie, c'est une région qui est effectivement polluée par les serres et par une agriculture qui envoie en France chaque année 80 000 tonnes de fraises en février, mars et avril.
Le bonheur. Et en plus, elles n'ont aucun goût.
Elles n'ont aucun
goût.
Elles sont dégueulasses. Elles sont grosses comme des tomates. Elles ont le même goût que les tomates. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de cesser de consommer ces fraises d'Andalousie?
Et ça, évidemment, ça fait partie de ces gestes qui ne sont pas compliqués.
Et puis, il y a d'autres emplois, excuse-moi, mais rapidement aussi, auxquels on ne pense pas assez. C'est, à la limite, l'agriculture. C'est-à-dire, pour l'instant, on a, dans une situation où l'emploi agricole a totalement diminué, représente maintenant à peine 1 ou 2 ou 3% de la population active, mais on peut imaginer que l'agriculture recommence à créer de l'emploi dès lors que ça serait une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, sur des plus petites exploitations. Et là, on a un gisement d'emploi qui est extrêmement important, pas seulement dans les pays du Sud, parce que les pays du Sud ne pourront pas suivre notre modèle de développement industriel, etc. Donc là, il y a un gisement d'emploi extrêmement important pour l'agriculture dans les pays du Sud, mais aussi même dans nos pays.
Et on comprend bien en vous écoutant et puis en regardant ce qui se passe, et que le cahier des charges de ce siècle, la valeur du futur, ça va être l'optimisation des ressources, qui est évidemment contradictoire avec ces valeurs du passé. Donc c'est cela qui est en train de se mettre en place, parce que pour la première fois, l'humanité est quand même confrontée à ses limites. Donc c'est la première question, je dirais, politique totale qui est posée à l'humanité. Aujourd'hui, entre le réchauffement climatique, effectivement, c'est ces limites que nous rencontrons en matière première, en matière primaire, etc. Et donc, c'est cela, effectivement, qui est derrière. Moi, je peux vous renvoyer. Donc, alors, nous avons Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète, édition du Seuil, et puis, bien sûr, aussi, dans les pages Planète maintenant du Monde. Claude-Marie Vadrault, Pensée durable, économiser. Alors, ça touche aussi bien l'énergie, l'habitat, la conso, les transports chez Hachette Pratique. Anne Chaon, lorsque le bouquin n'est pas encore sorti, mais un jour, vous verrez, ou bien on le fera ensemble. Hein, voilà,
bien sûr. Trouver une bonne idée.
Ça va être ça. Merci à toutes et à tous. Merci à Éric Mainviel et Gilles Gaillard qui étaient à la technique aujourd'hui, à Sophie Le Doré, à Jean-Christophe Pinaza et Maïté Adam qui réalisaient cette émission.